Chapitre 3e. Combien Dieu a en horreur l'amour-propre et combien il le châtie. Nous avons déjà dit que l'amour-propre était la source intarissable de tous les maux qui inondaient la terre, qu'après avoir mis le désordre dans le ciel, il était venu couvrir notre monde d'une multitude de maux. On peut dire avec vérité que c'est le plus grand ennemi non seulement de chaque homme en particulier, non seulement du genre humain en général, mais encore de Dieu lui-même. L'amour-propre attaque directement ce grand Dieu. Il veut lui ravir la gloire dont il est si jaloux et qu'il a déclaré hautement ne vouloir céder jamais à personne. L'amour-propre porte la témérité jusqu'à usurper les droits de Dieu, jusqu'à se mettre à sa place, jusqu'à s'attribuer tout à lui-même, comme s'il était Dieu. Qui ne voit combien un tel vice doit être en horreur aux yeux de Dieu? Écoutons la Sainte Écriture. L'orgueil, dit-elle, est en exécration devant Dieu. Il lui est insupportable. Voir Ecclésiaste 10.7. Elle assure d'ailleurs que Dieu résiste aux superbes. Jacques 4, 6. Quelle expression! Elle nous apprend que le Seigneur regarde l'orgueilleux comme un adversaire qui ose se présenter pour lui disputer sa gloire. Voilà pourquoi la Divine Majesté daigne s'opposer à son infâme prétention. Hélas, que deviendra ce pauvre insecte qui ose en quelque chose se mettre en parallèle avec le Dieu de majesté? Le Seigneur soufflera sur lui, comme il le fera un jour sur le plus orgueilleux des hommes, l'Antéchrist, et il le dissipera comme de la paille, et il le précipitera dans l'enfer pour servir d'aliment au feu éternel. Un saint homme réfléchissant sur l'indignité que portait l'orgueilleux à s'élever en présence du roi de gloire, s'écriait: Oh, que mon âme ne soit jamais assez insolente et assez superbe pour oser s'élever en présence de son Dieu et de son roi. Qui pourrait tenir un autre langage? Quelle injustice en effet! Et puis quelle ingratitude! Ce Dieu de bonté nous donne tout le reste, il se donne lui-même, il donne son Fils, son Saint-Esprit, tous ses trésors, il se réserve sa gloire et l'orgueilleux veut la lui disputer. Voyons quels sont les châtiments réservés à ce crime. L'Écriture nous marque en divers endroits que lorsque le Seigneur est peu irrité, il emploie son doigt pour châtier, ou tout au plus la main, mais que quand sa colère est à son comble, il se sert de son bras. C'est ainsi qu'il punit les superbes. Écoutons les belles paroles de la plus humble des créatures. Le Seigneur, dit la Sainte Mère de Dieu dans son cantique, le Seigneur a mis de la puissance dans son bras. Quelle expression! Et pourquoi le Seigneur va-t-il déployer tant de puissance? Écoutons. Pour disperser les superbes. Elle ne dit pas pour les confondre, pour les humilier, ce qui arrive pourtant, comme nous le verrons, mais elle dit pour les disperser. Comme un conquérant irrité de la résistance qu'on lui a opposée, et qui ne veut faire aucune grâce, oblige ses ennemis à se disperser de tous côtés, sans savoir où se retirer pour être à couvert de sa colère. Ouvrons encore les livres saints, comme en Luc 14, 11. Ainsi, règle générale et sans aucune exception, quiconque s'élève, quel que soit son état, quels que soient les dons célestes dont il est enrichi, quiconque s'élève sera abaissé. ce qui doit s'entendre non seulement de la confusion réservée à l'orgueilleux dans ce monde, mais encore de la confusion éternelle s'il ne fait pénitence, ce qui est très rare. Qui ne tremblerait, qui ne s'anéantirait en présence de ce Dieu terrible dont les menaces ne sont jamais vaines? Voyons quels sont les effets de cette règle infiniment sage du Seigneur. Étudions les leçons de l'expérience et nous verrons que par un juste jugement du Seigneur, personne n'est plus méprisé que celui qui veut être honoré. Que dès que quelqu'un commence à s'aimer lui-même, eût-il le visage et l'esprit angélique, il devient hideux, insupportable aux autres hommes. Comme il n'y a pas de si grand défaut que l'humilité ne rende supportable, il n'est point de si grand mérite que la vanité ne rende odieux. Dieu se plaît à rendre semblable aux animaux dépourvus de raison, ceux qui ont voulu en quelque sorte se rendre semblables à Dieu par l'enflure de leur esprit et de leur cœur. Et encore, lorsque la colère du Seigneur contre ce malheureux vice se borne à des humiliations temporelles et passagères, le châtiment n'est pas si considérable. C'est même une insigne miséricorde du Seigneur qui, en châtiant, n'oublie pas sa miséricorde, et qui prétend nous rappeler à notre devoir par les coups qu'il nous porte. Il n'en est pas ainsi lorsque le Seigneur permet qu'en punition de ce détestable vice, l'homme qui en est souillé tombe dans des excès affreux, dans des impudicités horribles, qui le rendent l'objet de l'exécration générale. C'est le châtiment terrible que la justice divine infligea au faux sage dont parle l'apôtre, qui, après avoir connu Dieu, ne lui rendirent point la gloire qui lui était due. Que leur arriva-t-il? Dieu permit pour les humilier qu'ils conçussent des désirs indignes de l'homme et qu'ils tombassent dans des excès qui, en déshonorant leur propre corps, les rendaient de vrais cloaques d'immondices. Voir Romains 1, 24. Oh, quel terrible châtiment! Oh, qui pourrait compter le nombre de ceux qui, pour s'être élevés en présence de Dieu comme Satan, ont été punis comme lui et sont tombés dans toutes sortes d'excès? Qui pourrait compter tous ceux qui sont tombés dans l'apostasie et dans toutes sortes d'ordures? Oh, qui ne craindrait un vice qui attire sur ceux qui s'en rendent coupables des châtiments si terribles et qui conduit si directement au supplice éternel? C'est ainsi que se vérifie cette parole de l'Esprit-Saint. Quand vous voyez un homme élevé par sa vertu ou par sa dignité tomber dans l'abîme, vous pouvez prononcer sans crainte que ce malheur lui est arrivé en punition de son orgueil, car l'orgueil précède toujours la ruine spirituelle. Proverbe 16, 18. Hélas, combien en ont fait la triste expérience? Que dire des illusions déplorables où le démon a souvent fait tomber des hommes superbes? Les histoires anciennes sont remplies de faits qui confirment ce que nous disons. Encore une fois, tremblons et humilions-nous en présence de notre grand Dieu et supplions-le, avec de saints personnages, de nous ôter plutôt du monde que de permettre que l'orgueil s'empare jamais de notre âme.